Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. La mort de Jean-Paul II fut l'occasion pour les médias de rappeler le rôle du Polonais, le rôle du premier pape slave de l'histoire de l'Église dans la chute du communisme. En revanche, peu de journalistes rappelèrent son action politique dans le cadre des relations internationales contemporaines. Le Vatican, plus petit état du monde, a un rôle diplomatique primordial et au fond, ce n'est pas un hasard si 200 délégations, chefs d'État, rois, reines, se sont rendus le 8 avril dernier aux obsèques de Jean-Paul II. 200 représentants, une sorte de revanche 135 ans après la prise de Rome et l'enfermement du Saint-Siège dans les palais du Vatican, à une époque où le chef des catholiques était considéré comme la survivance d'un passé, un passé sans futur, selon l'expression de Philippe le Vilain. Pourtant, comme nous allons le voir, petit à petit, l'autorité pontificale va recouvrer une place au sein de la politique étrangère des États. Malgré la lutte anticléricale dans plusieurs pays, malgré les deux crises européennes que furent la Première et la Deuxième Guerre mondiale, malgré enfin la domination communiste sur toute une partie de la planète, le Vatican va réussir à sortir de son isolement. Pour nous présenter cette évolution tout au long du XXe siècle, pour comprendre l'action romaine, la politique du Saint-Siège à l'égard des nations et celle des nations à l'égard du Saint-Siège, je reçois Philippe le Vilain. Philippe le Vilain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 10, membre du comité pontifical des sciences historiques. Vous avez dirigé un travail monumental qui est le Dictionnaire historique de la papauté, un ouvrage de plusieurs centaines de pages, plus de 1650 pages, qui a été édité aux éditions Fayard. Et dernièrement, vous avez organisé avec Hélène Carrère-Dancausse, dans le cadre de la Fondation Saint-Gé-Polignac, un colloque consacré au rapport des nations et du Saint-Siège au XXe siècle. Ces actes du colloque sont disponibles également aux éditions Fayard. Alors, Philippe le Vilain, on est surpris par l'existence, au fond, de peu d'ouvrages sur la question des relations internationales et du Vatican. Alors, pourquoi cela? Hélène Carrère-Dancausse, d'ailleurs, le dit, l'écrit dans sa conclusion. Quelle audace fallait-il pour imaginer et tenir un tel colloque? Les relations internationales sont le parent pauvre de l'histoire de l'Église?
C'est-à-dire que c'est le parent difficile à comprendre. Dans la mesure où, à partir du moment où le Saint-Siège, donc le pape, s'est trouvé dans cette position en 1870, de refuser tout accord avec l'Italie souveraine, on n'envisage pas que le Saint-Siège, qui est devenu invisible et exilé dans Rome, puisse avoir une influence internationale telle qu'il l'a eue d'ailleurs. Et progressivement d'ailleurs, au fil des 150 dernières années. Et donc, ça a toujours rebuté les non-spécialistes, et les spécialistes ont été obligés de creuser. Alors, dans le colloque qui a été édité par Jean Fayard, où Mme Carrère-Dancausse et moi-même, nous avons essayé de rassembler ce qu'il y avait de mieux sur la planète pour essayer d'en parler, Nation et Saint-Siège, on a essayé de montrer que, au fond, le Saint-Siège a toujours été proche, je dirais proche non seulement par sa volonté, proche dans la façon dont on le considérait, du système international tel qu'il s'est déroulé. Moins en 1970 qu'après la guerre de 14.
Alors justement, vous parlez de cette date de 1870. Pour nos auditeurs, je pense qu'il faudrait faire un saut dans l'histoire. Que signifie cette date? Que représente-t-elle? Quels événements recouvre-t-elle?
Alors, c'est une date symbolique qui a plusieurs titres. Premièrement, en 1970, ce qui était prévisible, de toute façon, rien n'aurait changé pour autant. La maison de Savoie, c'est-à-dire le royaume d'Italie, pas unifié, mais presque unifié, s'empare d'un symbole, qui est un emblème, qui s'appelle Rome. Rome, qui était vraiment, je veux dire, que dans la littérature, la poésie, dans l'histoire, dans l'archéologie, etc., dans toutes les sciences humaines, un peu le centre du monde, je veux dire, méditerranéen, j'entends.
C'est la fin des États pontificaux.
C'est la fin définitive des États pontificaux.
Puisque au XIXe siècle, et bien avant encore, il y avait des États, plusieurs centaines de kilomètres carrés.
Qui d'ailleurs constituaient une espèce de... d'étranges écharpes, c'est-à-dire qui prenaient l'Italie au milieu, qui allait de l'Adriatique jusqu'à la Méditerranée. Donc, ça a été pris, tout ça avait été réduit finalement au coup par coup, mais il restait Rome. Rome était à la fois, je dirais, la capitale de l'Italie, certainement, mais une Italie que la monarchie de Savoie voulait comme étant une Italie moderne. Donc il y avait une lutte, et le pape Pie IX, en l'occurrence, qui était sur le trône de Saint-Pierre depuis 1846, a lâché prise très vite, dès qu'il a vu que l'assaut ne méritait pas quand même que le Saint-Siège mérite une bataille. Donc il y a d'ailleurs des ordres que l'on sait, d'après les archives, au cardinal Antonelli, qui était son secrétaire d'État, qu'on ne réussit à point. Ce qui fut fait. Donc, Rome prise, il se trouvait que le pape s'est enfermé, comme on dit, dans les palais apostoliques, dans le Vatican. Donc, les futurs 44 hectares qui ont été négociés ultérieurement. Et que ça a duré jusqu'en 1929.
Jusqu'aux accords du Latran.
Jusqu'aux accords du Latran du 21 et 22 février 1929. Et alors, il a rajouté cette chose extraordinaire, c'est qu'il y avait à Rome le pape, et que de l'autre côté, il y avait une monarchie, donc il y avait unifié l'Italie, c'est-à-dire qu'il y avait un souverain pontife qui se trouvait face à face avec quelqu'un qui avait étendu son autorité sur l'ensemble du territoire italien. Je ne veux pas dire que l'autorité fonctionnait, c'est autre chose. D'où cet extraordinaire face à face entre un prisonnier d'un côté, un prisonnier dans un palais doré, mais enfin un prisonnier douloureux, parce que tous les papes, Léon XIII, Pie X, Benoît XV et même Pie XI pleuraient, d'après les témoignages que l'on a dans les archives, à l'idée qu'il ne pouvait pas sortir de Rome. Et surtout Pie XI, qui, comme paraît-il, quand il entendait, qui est un grand alpiniste et un grand voyageur, quand il entendait passer les trains au loin, paraît-il, dans son jardin, pleurait en disant « Je ne peux pas sortir des palais apostoliques. »
C'était bien une réalité, oui.
Ah, c'est la vérité, c'est un choix que la papauté a fait.
Oui, oui, oui. Alors, vous avez une très belle expression. Vous dites que le 20 septembre 1870, vous considérez cette date comme le soir de l'histoire du Saint-Siège. Et vous, très opportunément, vous présentez la phrase de la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, il y a une renaissance.
Oui, il y eut un soir, il y eut un matin. Parce qu'effectivement, il y eut un soir tragique, disons dramatique, pour ne pas exagérer. Parce que vous savez qu'en 1870, non seulement déclaré la faillite pontificale, que l'orage a éclaté, qu'il s'est trouvé que les circonstances climatiques ont fait que les événements qui sont passés entre juillet 1870 et septembre 1870 ont donné le sentiment qu'il s'agit véritablement d'une apocalypse, qu'a décrit par Louis Veuillot d'ailleurs. Et il y a eu un matin, parce que le matin, d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, après la mort de Jean-Paul II, on le ressent, c'est-à-dire que, eh bien là, ce qu'on peut appeler une nouvelle vision, un nouveau visage du Saint-Siège. Il ne faut pas confondre une chose, que tous les journalistes, excusez-moi, vous n'êtes pas journaliste spécifiquement, confondent. Le Saint-Siège, c'est le pape. Le Vatican, c'est un territoire. Alors, quand on dit le Saint-Siège, le Vatican, le pape, c'est pas pareil. Le pape emporte le Saint-Siège avec lui. Quand Jean-Paul II voyageait, par exemple, le Saint-Siège n'existait plus. C'est-à-dire qu'il y avait le Vatican, qui est une résidence, comme vous diriez l'ONU ou la FAO. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Paul II a pris des dispositions extrêmement précises pour que, naturellement, en 1996, le pape soit forcément élu à la chapelle Sixtine. Parce qu'il est bien pensé qu'un pape, il pourrait lui arriver de mourir aux Philippines à un attentat comme Paul VI a failli le faire, etc. Enfin, il a failli être parti. Voilà. Donc, Saint-Siège est une chose, le Vatican est une autre chose. Le Saint-Siège est une personne, c'est le vicaire du Christ, et le Vatican, c'est un territoire.
Est-ce que Pie IX, le règne de Pie IX va durer très longtemps? Je crois qu'il va durer plus de 32 ans.
Ah oui, 1846-1878.
Et après cette occupation romaine, Il va y avoir un durcissement de la part de Rome, un repli sur soi ?
Non, on ne peut pas dire ça. Je veux dire que le repli sur soi, comme vous dites, était en fait une des considérations doctrinales sur le 19e siècle.
Oui.
Et pas spécifiquement lié à la chute de Rome en 70. Mais le syllabus 64 était déjà une condamnation des erreurs du monde moderne, etc. Encouragé d'ailleurs par des Français. Une chose assez étonnante. Mais non. Au contraire, parce qu'on peut dire que Léon XIII ensuite a fait l'ouverture, et une ouverture très, très large, dans la mesure non seulement il a proposé la République française, par exemple le ralliement en 1892, mais surtout cette immense encyclique qui s'appelle Rerum Novarum en 1891, le 15 mai 1991, qui est commémorée. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de la papauté d'encyclique qui était commémorée aussi souvent, parce qu'une encyclique en général, c'est un tout. Bon. Or là, Rerum Novarum a été commenté par Quadragesimo Anno en 1931, 40 ans après. Pie XII l'a commenté en 1941, c'était quand même pas opportun. Et puis elle a été commentée successivement, pour faire bref, par Jean XXIII, par Paul VI, jusqu'à ce que Jean-Paul II lui-même fasse Centesimus Annus en 1991.
Oui, oui, oui.
Et je me souviens très bien que moi j'étais dans la salle Clémentine, où quelqu'un lui a posé la question quelques jours avant que l'encyclique ne fût publiée. Il dit très sympa, comment vous appellerez la prochaine encyclique? Il a dit, mais écoutez, est-ce que vous avez un doute? Alors la personne en question lui a dit, je ne sais pas, Centesimus Annus, vous avez gagné.
Philippe le Vilain, Léon XIII, apparaît en quelque sorte comme un pape de transition.
Alors, il est élu comme un pape de transition, et comme beaucoup de papes de transition, il fait beaucoup de choses. D'abord, il a à l'époque, c'est important, 68 ans, ça paraît quand même un vieillard. Aujourd'hui, ça paraît quand même un homme jeune. Donc, il est nommé Jean X. Hein. Il fait un travail énorme, qui est un travail diplomatique, qui va remettre le Saint-Siège sur la scène diplomatique, alors que le Saint-Siège n'a plus de territoire. Bismarck, dans ses mémoires, qui avait vu clair, dit au fond, la seule puissance internationale qui n'a plus de territoire et qui pourrait nous servir de négociateur, c'est le Saint-Siège. En 71, il parle, en 70. Et il parle en fait de Pie IX, qui naturellement ne veut pas entendre parler parce qu'il est quand même un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie de cette allée et venue. Et Léon XIII accomplit en fait ce que Bismarck avait souhaité, donc les médiations et les bons offices. Médiation, les Carolines en 85. Haïti en 87, etc. C'est-à-dire qu'on le consulte. On consulte Saint-Siège comme médiateur. Médiateur, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui essaye d'expliquer qu'une guerre est inutile. Et on peut dire que le rayonnement du Saint-Siège et la situation actuelle du Saint-Siège jusqu'à Helsinki tient au fait que Léon XIII a parfaitement joué son rôle de foi à pontife, qui naturellement, même s'il pleurait lui aussi, quand il recevait en audience de grands dignitaires français, etc., sur son statut de prisonnier du Vatican, le terme était prisonnier du Vatican, est allé de pair avec une diplomatie intense qui a joué un rôle énorme dans les relations internationales à la fin du XIXe siècle, au début du XXe aussi.
Alors, précisément, est-ce que le Vatican va changer sa conception des relations internationales? C'est ce que je vous propose de voir, Philippe le Vilain, après une première pause.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Philippe le Vilain, professeur à Paris 10, auteur du fameux dictionnaire historique de la papauté, organisateur avec Hélène Carrère d'Encausse et la fondation Singer et Polignac d'un colloque consacré au thème Nation et Saint-Siège au XXe siècle. Les actes du colloque sont disponibles aux éditions Fayard. Alors nous avons, Philippe le Vilain, abordé cette question de la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, au fond tout au long du XIXe siècle, il y a cette idée de nation. Et cette idée de nation est une idée révolutionnaire. Et en théorie, la papauté devrait s'opposer à cette idée de nation, de nationalisme, de nationalité, de nouvelle nationalité. Disons que le Vatican a des relations avec les États, mais non avec les nations.
Oui, c'est très juste ce que vous dites. Ce problème, c'est qu'elle ne peut pas s'y opposer, parce que c'est une réalité, c'est ce qu'on appelle une réelle politique. Et que l'Allemagne, l'Italie notamment, dans laquelle le Vatican se trouve enclavé dans Rome, constitue une nation. Et que l'État, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire que sur les définitions qu'en donne Léo Strauss, c'est véritablement ce qu'on peut appeler, au-delà des frontières, une certaine conception que l'on a de l'exercice du pouvoir. Bon, indépendamment des pendulaires que vous donnez, la gauche, la droite, etc., ou le centre. Le Saint-Siège, en réalité, comme c'est montré dans le colloque que vous avez cité, comprend très vite qu'il faut qu'il y ait affaire aux nations. Ça prend un certain nombre d'années, puisqu'au fond, c'est la nation italienne qui lui confisque les territoires dont il était jadis, depuis longtemps, bénéficiaire. Et donc, il traite avec les nations. D'où une extraordinaire intelligence qui fait qu'il évalue la façon de procéder. Il pratique une politique concordataire. La politique concordataire consiste à traiter avec les États pour que les nations comprennent que si l'État s'engage, les nations doivent suivre. Je veux dire que ce que le Saint-Siège veut séparer dans la politique concordataire, c'est l'État, qui est, je dirais, l'entité des nations, ou disons, la source des nations, puisse se faire accepter aux nations dans le cadre du nationalisme, ou des nationalités, comme vous voulez. Et là, c'est une politique très très habile, parce que jamais autant de concordats n'ont été signés que à partir de Léon XIII jusqu'à maintenant.
Francesco Margiotta Broglio, qui intervient lors du colloque, parle de 167 accords, grosso modo, ce qui est énorme. C'est une voie moyenne, le concordat ?
Le concordat est très difficile à comprendre aujourd'hui, parce que c'est une voie...
Surtout pour nous, Français, qui sommes en régime de séparation.
Oui, enfin, qui avons été deux fois en régime concordataire, et sous Force Ier, et sous Napoléon, et sous Bonaparte. Non. Le concordat était une... on appelle ça, en termes pédants, un traité synalagmatique. C'est-à-dire qu'il engage les deux parties puissantes et qu'on ne peut pas l'énoncer sans que l'autre soit d'accord. D'où le drame qu'a représenté la séparation des Églises et l'État en 1905. La grande idée du Saint-Siège, depuis toujours, depuis le XIVe siècle, a été qu'en signant des accords, on se mettait d'accord sur les bases moyennes sur lesquelles une église, ou des églises, en tout cas l'église catholique pour le coup, devait exister dans une nation. Vous savez que le terme de nation n'est pas lié à la Révolution française. On parlait de nation, par exemple, pour désigner des universités, pour désigner des régions qui avaient... et même leur langage, qui avait leur folklore, etc. Quand vous allez à Salamanque ou à Rome, il y a la nation française, il y a la nation italienne, la nation même madrilène, etc. Donc il faut bien voir ça. C'est un mot qui a été confisqué au bénéfice de l'unité hexagonale, si j'ose dire, mais qui autrefois représentait ce qu'on peut appeler véritablement... je dirais plutôt un paysage mental, voilà. Car je suis devenu un révolutionnaire.
Alors, j'en reviens à l'histoire des papes en eux-mêmes. On a vu avec Léon XIII qu'il y avait un retournement de situation, une nouvelle orientation, la politique de ralliement, etc. Est-ce qu'avec Pie X, le futur Saint Pie X, nous avons une sorte de blocage intellectuel sur cette évolution moderne? On a l'impression qu'il y a une sorte d'éclipse du point de vue des relations internationales avec Saint Pie X.
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, Pie X, qui succède donc à Léon XIII en 1903, est un master, ancien personnage de Venise, etc. Il ne s'occupe pas de relations internationales. Il a autour, avec lui quand même, un personnage, Jules Romain, a fait le porteur de la zone de bonne volonté, qui s'appelle Méry Delval, qui est un grand diplomate. Mais ce n'est pas son sujet principal. Je veux dire que Son sujet principal, c'est la pastorale, ce qui veut dire, par exemple, c'est lui qui a fondé, qui a même demandé, et exigé d'ailleurs, la première communion, c'est Pie X. La confirmation, c'est Pie X. Le rite du mariage, c'est Pie X. Donc la politique internationale de Pie X n'est pas très, très passionnante, dans la mesure où elle est faite par un homme qui est un homme très aigu, qui est Méry del Val, espagnol, comme vous savez, aristocrate en plus, qui essaye de faire au mieux, mais qui a beaucoup de difficultés à faire passer un pape débonnaire, ce que peut être une géostratégie.
Vous citez Méry del Val. Est-ce que c'est à cette époque, au début du XXe siècle, que la secrétaire d'État prend une importance significative ?
Significative, oui, mais prendre de l'importance, elle a toujours eu. Simplement, Méry del Val lui donne un style.
Oui. Oui, puisque l'institution remonte au XVe siècle, je crois.
Absolument. Méry del Val lui donne un style, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est lui qui fait la politique étrangère du Saint-Siège. Que le pape laisse un peu faire par cet homme très intelligent, qui a failli bétifier d'ailleurs, qui n'a pas été. Dont l'instruction de son procès en bétification est en cours, enfin, elle est restée un peu en rade aussi, et qui fait la politique extérieure du Saint-Siège. Mais à partir du moment où c'est un secrétaire d'État qui décide la politique extérieure du Saint-Siège, il n'y a pas de politique extérieure du Saint-Siège, c'est le pape qui doit bénir ça, enfin bénir, autoriser, si vous voulez.
Nous avançons un peu dans le temps. Nous passons sur la Première Guerre mondiale, qui a fait l'objet d'une émission à part entière avec Nathalie Renoton dans le cadre d'Un jour dans l'histoire. Et j'en viens tout de suite à l'année 1919. Il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est qu'au fond, le sort du monde se décide en 1919 par le traité de Versailles et la papauté y est absente.
Oui, alors ça, c'est le grand échec du Saint-Siège, 1919, nous sommes sous Benoît XV, qui donc a succédé à Pie X. Le Saint-Siège espère obtenir une voie, si j'ose dire, en tout cas d'information, de conciliation et de réclamation aussi, au cours des divers traités qu'on appelle globalement traité de Versailles, enfin, il y a Trianon, etc.
Sèvres, etc.
Sèvres. Il échoue. Il échoue parce que, en réalité, la convention qui était passée en avril 1915 pour que l'Italie finalement entre en guerre du côté des Alliés stipulait que le Saint-Siège ne se mêla jamais de la question territoriale, à savoir Rome. Quoi. Il était clair que si Rome s'en mêlait, si le Saint-Siège s'en mêlait, c'était non. Donc, il échoue, quoi qu'il ait un œil, une oreille d'ailleurs, aux différents traités. En tout cas, il est écarté. Clémenceau joue un rôle très important là-dedans. Wilson aussi d'ailleurs. Ça ne se fait pas parce qu'on écarte le délégué du Saint-Siège. Et donc la réclamation du Saint-Siège sont vouées à l'échec. C'est là que commence ce qu'on peut appeler une période très dure pour le Saint-Siège, que je crois plus dure que celle qui a été la prise de Rome en 70.
Oui, oui. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'un parallélisme entre, d'un côté, la vocation universelle de l'Église, qui s'oppose au wilsonisme ? Qui s'oppose au fond au wilsonisme. Et puis aujourd'hui, la politique de Bush qui s'oppose au fond à la volonté pacificatrice de Jean-Paul II.
On peut dire ça. On peut dire aussi que la question ne se pose pas dans les mêmes termes, si vous voulez. Dans la mesure où le Saint-Siège, en 1918-19, disons, est encore une vague volonté de récupérer quelque chose en Italie. Bon, c'est avant 1929, nous sommes à 10 ans en 1929. Ouais. C'est pas, en 1919, on ne sait pas ce que sera en 1929. Je veux dire que vous... Et c'est à la fois efficace et maladroit. Et en même temps, on peut dire que c'était prémonitoire. C'est-à-dire que, il faut oublier quand même qu'une chose qu'aujourd'hui apparaît comme évidente, c'est que le Saint-Siège, avec la note du 1er août 1917, quand il propose Benoît XV, une paix internationale sur le fondement du statu quo, est vilipendée partout. Par l'archevêque de Paris, le cardinal Hamet, par l'archevêque de Malines. Personne ne comprend.
Est-ce que c'est une des causes du silence de Pie XII, 20 ans plus tard ?
Ah non, ça n'a rien à voir.
Il n'y a pas un lien disons, l'expérience de Pacelli pendant la Première Guerre mondiale n'est pas liée
Ça n'a rien à voir, c'est autre chose.
Je reçois Philippe Levillain et nous évoquons la politique internationale de la papauté tout au long du XXe siècle. Philippe Levillain, nous nous retrouvons après une seconde pause.
Canal Académie. Écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Philippe Levillain. Philippe Levillain qui, avec Hélène Carrère-Dancos, a dirigé un travail, Nations et Saint-Siège, un colloque consacré aux relations internationales et au Vatican au XXe siècle. Ce colloque était également organisé par la Fondation Singer-Polignac. Les actes sont disponibles aux éditions Fayard. Alors nous sommes dans la première moitié du XXe siècle, toujours. Nous avons évoqué le rôle de Benoît XV et l'échec de 1919. On a l'impression qu'avec Pie XI, il y a une sorte de nouveau souffle, notamment incarné par les accords du Latran. C'est-à-dire que, la papauté s'impose aux yeux du monde, non ?
On peut dire ça comme ça. On peut dire que les accords du Latran, au fond... Pie XI, qui était donc souverain pontife depuis 1922, les accepte parce qu'ils sont proposés en fait par Mussolini. Bon. D'ailleurs, que vous savez que Pie XI n'a pas signé les accords du Latran, c'est le cardinal Gaspari, qui avait une formation française, demande qu'il a signé, puisque le pape ne signe jamais rien, c'est toujours le secrétaire d'État qui est la main du pape. Et Mussolini voulait les accords du Latran parce qu'il y avait trois questions à régler. La première, une convention financière, va donner au Saint-Siège pour compenser le fait qu'on ait pris Rome. La seconde, une convention que l'on peut dire d'ordre juridique, que ce qu'on va faire de la présence du Saint-Père, comme on dit à l'époque, de Rome. Et la troisième, comment est-ce qu'on organise les relations entre l'Italie et Saint-Siège, et donc le monde. D'où le fait qu'on ait défini finalement État de la cité du Vatican. C'est important. État de la cité du Vatican. Le Vatican est une cité qui est un État. Et qui se trouve au Vatican parce que c'est un lieu, ça. Nous sommes d'accord. Et en fait, Pie XI accepte parce que 1929, il croit qu'il est possible de modérer la montée du fascisme en Italie. Il ne faut pas oublier que le pape est d'abord évêque de Rome. Il pense qu'il est possible de modérer la montée du fascisme en Italie, ce sur quoi d'ailleurs il sera trompé aussi, d'où l'article 31 de Visionio, mais peu importe, 29 c'est 29. Mussolini est très content parce que Il signe donc les accords du Latran, fameux, représenté partout, qui crée l'État assisté du Vatican, qui est demandé par Mussolini. C'est-à-dire que, en réalité, le pape accepte une création qui est donc une restriction d'un territoire qui avait déjà proposé par l'Italie, par le gouvernement italien en 1871, et qui était beaucoup plus large, qui en particulier comportait un accès à la mer, qui n'est plus maintenant d'actualité. Qui en 29 n'est pas dessiné. Voilà. Et puis la convention financière, très bien. Sachant que l'Italie a gardé l'argent qu'elle estimait devoir au Saint-Siège dans une banque italienne spécifique. C'est-à-dire on a remis l'équivalent de 29 de ce qui a, on était à la veille comme une crise économique assez lourde, ce qui a été fixé. Et moi, j'ai donné dans un livre la photocopie du chèque, c'était absolument hallucinant. Je veux dire que penser que l'argent était gardé dans un dépôt. Et ensuite, évidemment, il résulte que le bénéfice que le pape, donc Pio XI, entendait retenir de cette convention à trois volets, qui s'appelle donc les accords du Latran, s'avère totalement faux. À savoir que Mussolini recommence à persécuter les catholiques intellectuels en Italie immédiatement, que la démocratie chrétienne, qui avait déjà dételé ses chevaux en 1922, est pourchassée, que, disons que le catholicisme est obligé de céder vis-à-vis du paganisme violent sous couvert de l'accord qui a été donné. C'est-à-dire que, fort de cela, Mussolini pense qu'il a tous les droits. Et d'où la condamnation qui est en 1931, et puis ensuite les condamnations successives qui interviennent vis-à-vis des autres régimes.
Alors je fais un petit saut géographique. À la lumière de ces événements sous le régime fasciste de Mussolini, pourquoi y a-t-il eu un accord, en tous les cas un concordat, avec le régime nazi en 1933?
Oui, c'est une question qui, que vous avez raison de poser. C'est juillet 1933, hein, Hitler est au pouvoir depuis janvier 1933. Parce que la grande idée concordataire, c'est que, et c'est là que la papauté, c'est un siège, est extrêmement juridique. S'il y a accord, il y a accord. Par conséquent, ça permet de respecter les droits qui sont acquis par l'accord vis-à-vis des catholiques ou des chrétiens en général. Je veux dire. Et donc, à partir de là, on doit respecter. Ce qui est, au fond, très compréhensible. C'est-à-dire que si Pacelli s'ingénie, je reconnais, et convainc Pie XI, à faire signer ce concordat quelques mois après l'arrivée de Hitler au pouvoir, c'est pour protéger les catholiques que, non seulement de l'Allemagne, mais je veux dire que de l'ensemble du monde oriental, enfin en tout cas de la Bavière, naturellement, où les catholiques sont majoritaires. Etc. Et le juridictionnalisme, le juridisme, pour parler plus correctement, n'est pas du tout l'intérêt d'Hitler. Il s'en fout, il s'en fout éperdument. Je veux dire que, pour parler, je m'excuse auprès des auditeurs, mais il a ce qu'il a voulu, c'est-à-dire qu'il ait reconnaissance de la part du Saint-Siège. Le Saint-Siège veut protéger les catholiques, et Hitler, comme Mussolini d'ailleurs, de son côté, veut être sûr de neutraliser le Saint-Siège. Or, là, et la grande difficulté, c'est qu'ils ne respectent pas les termes des accords. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des démons, et de l'autre côté, il y a un ange. Pour reprendre le titre d'un roman à la mode.
Alors, je passe à un tout autre sujet. Je laisse les silences de Pie XII à Philippe Chenot, qui en a longuement parlé lors d'une émission d'Un jour dans l'histoire. Et j'ai appris vraiment quelque chose en lisant les actes du colloque, c'est l'importance de l'idée européenne pour le Vatican. Alors qu'à l'origine, l'idée d'Europe est une idée laïque développée au 19e siècle par Hugo, au début du 20e siècle par Aristide Briand. Le Saint-Siège semble s'intéresser sérieusement à cette question.
Oui, parce qu'en fait, le Saint-Siège au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bon, si chez nous vous êtes dit tous la Seconde Guerre mondiale, les séances de Pie XII, il y a beaucoup de chance de l'avoir dit, parce que j'aurais des choses à dire là-dessus. Le Saint-Siège, les archives l'attestent, considèrent qu'il n'y a qu'une seule solution pour établir un ordre international, c'est l'Europe.
Une Europe supranationale ? Est-ce que la notion de supranationalité, dont parle d'ailleurs Jean-Paul II dans son dernier ouvrage « Mémoire et identité », est-ce que c'est une idée à laquelle on pense à cette époque ?
Je pense qu'à l'époque, d'après les papiers qu'on peut lire depuis 12 et du coup les correspondants des ambassadeurs, on pense surtout à une Europe bilatérale entre la réconciliation franco-allemande, dans laquelle interviendraient ensuite des institutions qui seraient des institutions de contrôle, mais qui ne sont pas véritablement des institutions fédérales. Si vous voulez. Je veux dire qu'il y a un mélange étrange dans les rapports et les dépêches entre ce qui est l'ordre du, je dirais, de l'actualité et ce qui est l'ordre du possible.
C'est vraiment la question franco-allemande qui prime à cette époque-là.
Oui. Je crois que le Saint-Siège a toujours eu en tête, à partir de 1946, l'idée qu'il fallait que, donc c'était de Gaulle, de Gasperi, de Noer, etc., qu'il y ait un triangle, qu'il y ait un triangle franco-italo-germanique. N'oubliez pas non plus que Pidouze, donc le cardinal Pacelli, était germanophile. Alors, on a beaucoup reproché à propos de la Shoah au pape cette tour, disant naturellement, il aimait tellement les Allemands qu'il a pardonné tout, je résume. Ce qui est faux, je veux dire que il aimait le peuple allemand, la culture allemande. Je suis désolé, je veux dire, même je sais que Goethe à Weimar se trouvait près de Buchenwald. Je veux dire, enfin bon, il n'a jamais apprécié. Je suis pas sûr qu'il ait su en plus, peut-être quand même un peu. Il n'a pas apprécié à ce moment-là. Mais enfin, il est clair que pour un pape comme Pie XII, donc Pacelli, secrétaire d'État, qui a été envoyé en Allemagne à plusieurs reprises, que vous savez, Munich, Berlin, etc., il y avait, il est juste d'ailleurs, un génie allemand. Alors, le problème, c'est le contraste qui d'ailleurs continue de tourmenter le Saint-Siège et le monde entier d'ailleurs, entre ce génie
Et la barbarie nazie.
Voilà. Et je crois que cet écartèlement entre génie culturel, parce que nous voyons beaucoup l'Allemagne, non seulement sur le plan linguistique, mais sur le plan musical, sur le plan théâtral, sur le plan, et la barbarie reste un mystère. Et que le Saint-Siège n'a pas pu contrôler ce mystère, parce que pour le Saint-Siège dogmatique par vocation. Donc, il avait condamné le nazisme, que vous savez, par l'équipe Mibrenner-Sorge. Et après, bon, voilà, enfin là-dessus, je crois qu'on vous a déjà parlé de ça, mais il faut bien voir que si la réconciliation franco-allemande a pu avoir lieu, c'est parce que le Saint-Siège, le premier, avait perçu qu'elle devait avoir lieu. Le général de Gaulle a parfaitement conçu qu'elle devait avoir lieu aussi. Donc il est passé au-dessus des atrocités du nazisme. Reste cette extraordinaire interrogation que pose le nazisme, sur laquelle d'ailleurs Jean-Paul II a parlé à plusieurs reprises, à savoir pourquoi dans un peuple, donc dans des âmes, dans des individus, passe tellement barbarie alors que c'est un peuple si civilisé.
Donc, il est étonnant de voir, ma génération a du mal à concevoir cette opposition franco-allemande aujourd'hui, alors que tout se passe bien, si l'on peut dire. Et on est plus marqué par le communisme. Alors justement, ce communisme va être de plus en plus important au sein des relations internationales. Le Vatican va avoir une hoste politique. C'est un article d'ailleurs signé de votre main dans votre dictionnaire historique de la papauté. Est-ce que cette hoste politique, dont tournée vers l'Est, tournée vers le monde communiste, ne s'oppose pas, et c'est une excellente transition pour la suite de notre émission, à la politique de Jean-Paul II ?
Alors, l'hoste politique est un problème très compliqué. Madame Carrère-Dancourt s'en est expliqué une fois dans un colloque sur Paul VI et la modernité dans l'Église. Et j'ai repris ensuite un certain nombre de choses. Ça veut dire politique vers l'Est. C'est très complexe, parce qu'en réalité, le Saint-Siège se trouve bouleversé par la Seconde Guerre mondiale, et on le voit dans les papiers du Quai d'Orsay, Pie XII attend beaucoup de la France, et les fondements de la France le fait devenir atlantiste. Parce qu'il pense qu'en fait, que la France est le boulevard, le rempart qui va résister à l'avancée nazie. Et puis ça ne se fait pas comme vous savez. Donc à ce moment-là, Pie XII devient atlantiste, mais décisivement atlantiste. C'est la raison pour laquelle il connaît le communisme en 1950, comme vous savez, et puis ensuite il refuse l'os politique, c'est-à-dire l'idée qu'après la mort de Staline en 1953, on puisse faire ce que suggère le Mgr Montigny, qui à l'époque pro secrétaire d'État avec Mgr Tardini.
Le futur Paul VI.
Paul VI. Et comme on dit dans l'Église, promoveatur ut amoveatur, il renvoie à Milan, comme archevêque du Milan, ce qui est quand même un très grand siège, Saint-Ambroise, Saint-Charles-Borromée, enfin, etc. Disons qu'en clair, il faut net, il s'en débarrasse. Parce que Paul VI, le futur Paul VI, a l'idée d'une autre politique d'ouverture à l'Est. Bon, comme vous savez, Paul VI n'interviendra plus dans l'histoire qu'à partir de 1963 en tant que pape. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a deux solutions pour l'Est politique. Soit ce qu'on appelle la politique des petits pas, comme disait Carlo Casaroli, secrétaire d'État de Jean-Paul II, soit la politique du coup de boutoir. Alors, Paul VI voulait pratiquer la politique des petits pas. Il a pas mal réussi, je veux dire, il faut le dire, parce que tout de même, il a réussi à libérer le cardinal Wyszynski, qui était primat de Hongrie, en rapatriant de l'ambassade des États-Unis où il était réfugié, etc. Bon, etc. Et donc, l'os politique, c'est vraiment cette politique des petits pas qui permet de gagner comme ça. Des libérations de prêtres, de cardinaux, des territoires, des autorisations, célébrer la messe, etc. Enfin bref, de faire en sorte que l'Église du silence, comme on disait, puisse une Église qui murmure. Et l'Église qui murmurait est devenue celle qui a contribué à la chute du mur de Berlin, entre autres, en 1989. Quand Jean-Paul II succède à Jean-Paul Ier, il a l'idée de revenir au coup de boutoir. Et donc, il va, je le dis parce que Carlo Casaroli me l'a dit un jour en tête-à-tête, et en fait, il veut porter des grands coups avec les voyages, notamment en Pologne, en Bulgarie, où il échoue plus ou moins, etc. Et ça ne marche pas, parce que on peut dire que l'os politique, à ce moment-là, échoue devant les manifestations. Et le cardinal Casaroli lui a dit un jour, mais très Saint-Père, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est par... petit pas. Et c'est comme ça qu'on est revenu à une politique qui a abouti finalement à la chute du mur de Berlin. Petit pas, ça veut dire aussi par les voies un peu souterraines. Donc, ce n'est pas pour rien que la jeunesse s'est présentée à Dresde et ailleurs, la jeunesse que le pape avait animée.
Dans son livre La guerre de 50 ans, Georges-Henri Soutou, professeur à la Sorbonne, présente d'ailleurs, les liens qui unissent Ronald Reagan à Jean-Paul II, l'aide qu'apportera Ronald Reagan en sous-main en quelque sorte à Solidarnosc. Il y a vraiment une politique volontariste.
Oui, tout à fait.
De sape du régime communiste.
Ah ben absolument, ça depuis le début. C'était annoncé par Jean-Paul II quasiment des jours qui suivent son élection par le Sacré Collège. Il y a deux poumons, et en gros, ça veut dire que l'Est et l'Ouest, moi je vais faire en sorte que ça fonctionne ensemble, que les deux poumons respirent ensemble, qu'il n'y ait pas un poumon asphyxié et l'autre qui ne fonctionne pas. Non, c'est sûr. Ce qui était difficile, c'est que l'os politique est une politique diplomatique. A été à un moment donné relié par une politique qui est une politique vraiment de présence et reprise par une politique diplomatique. Et c'est là que Jean-Paul II a l'idée de JMJ.
Est-ce qu'on peut parler d'un Jean-Paul II visionnaire, au fond ? Parce que qui aurait parié, à la fin des années 70, à une chute 10 ans plus tard du communisme ?
Je pense qu'on peut dire ça, mais on peut dire aussi d'un Jean-Paul II très actif.
Oui.
Parce que le visionnaire n'est pas seulement celui qui voit l'avenir, c'est aussi celui qui agit. Jean-Paul II était très actif. Je pense qu'il a contribué pour un tiers, à mon avis. Par capillarité, c'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes qui sont soulevés dans toutes les villes allemandes, etc., de l'Allemagne de l'Est, par exemple, etc., étaient venus à Thésée, ont été soulevés dans des mouvements qui ne sont pas uniquement des mouvements catholiques romains, mais charismatiques, protestants, dans les médias flambeaux. Et on peut dire que, certes, je pense personnellement que ce n'est pas plus d'un tiers, parce que je pense que Gorbatchev nous a laissé, si je veux dire, l'Europe de l'Est pour se débarrasser de nous, de s'occuper de ce qu'il y avait derrière, comme a dit Bernard Dancaux ce soir, ses propres pays. Voilà, mais ça c'est autre chose.
Je reçois Philippe Levillain qui a dirigé le colloque consacré aux relations internationales au XXe siècle entre les nations du monde entier et le Saint-Siège, des actes publiés aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons après une dernière pause. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves. Plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Christophe Dickès.
Merci d'être fidèle à Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Philippe Levillain, spécialiste de l'histoire du catholicisme. Vous avez dirigé, Philippe Levillain, le grand dictionnaire historique de la papauté. Alors, nous en sommes à l'étude, en quelque sorte, de ce pontificat extraordinaire que fut celui de Jean-Paul II sur le plan des relations internationales. Est-ce que, par rapport au début de notre émission, au fond, où nous évoquions toutes les difficultés de la papauté à s'imposer sur le plan des relations internationales, est-ce que la souveraineté immatérielle, la souveraineté morale, ne s'est pas substituée à une souveraineté territoriale inexistante à la fin du XIXe siècle ?
Ah ben ça, tout à fait. Je pense que d'ailleurs le prochain pape n'aura même plus besoin du Vatican, sauf pour avoir un pied à terre. Et d'ailleurs, c'est réclamé par beaucoup d'opposants à ce qu'on appelle le catholicisme romain, à savoir que le pape ne réside pas à Rome comme un chef d'État, comme Albert II de Monaco, ou comme qui voudrait. Mais ça, certainement. C'est-à-dire une évolution que Paul VI, par ses voyages, et Jean-Paul II, par les siens, qui sont beaucoup plus nombreux, ont favorisé, je dirais, qui mérite réflexion. Alors, reste à savoir ce que le prochain pape peut faire de ce très lourd, très... Je pense que l'héritage de Jean-Paul II est un des plus lourds héritages du Saint-Siège depuis, très franchement, presque... dans le monde contemporain, disons, en tout cas, deux siècles.
La chute du communisme a lieu à la fin des années 80, mais il y a entre 1989 et nos jours plus de 15 années. Quelle est la conception des relations internationales de Jean-Paul II pendant toute cette période ?
Alors, c'est une géopolitique de la présence. On peut prendre deux rayons. Ce qui est la vie intérieure de l'Église et ce qui est les rapports avec l'extérieur. Intérieur de l'Église, c'est une politique de la présence qui s'appelle la collégialité ou la subsidiarité, comme vous voudrez. C'est-à-dire que le pape a fait tous ses voyages pour montrer qu'il était présent en tant que primus et premier inter pares au milieu des égaux au sein des épiscopats nationaux ou continentaux, ça dépend. La seconde, c'est le fait que via le monde extérieur, il a manifesté qu'il est capable de quitter le Vatican. Donc on est très loin. Très très loin de l'enfermement du pape dans les palais apostoliques. C'est-à-dire que il n'y a pas de doute que, je dirais que Jean-Paul II, tout le monde le savait, était plus à l'aise à l'étranger quand il voyageait qu'à Rome. Ou à Rome, il subissait, je veux dire, la loi de la romanité, qu'il aimait beaucoup, parce qu'il a quand même fixé que le conclave doive toujours dorénavant. Son successeur pourra toujours dire le contraire. Mais en 96, il a dit que le conclave doit avoir lieu à la chapelle Sixtine. Donc c'est le centre, ça. Alors, on peut dire que ce qui caractérise la situation du Saint-Siège dans la relation internationale, c'est qu'il est un arbitre. C'est un arbitre, parce qu'alors il a présenté dans toutes les instances internationales. Il a un rôle même à l'UNESCO.
Arbitre en Palestine, arbitre de la question irakienne.
Absolument.
C'est plus un pacificateur ou un pacifiste ?
Non, c'est un pacificateur. Un pacificateur.
Alors, Jean-Paul II, nous évoquions l'Europe. Jean-Paul II refusait une Europe centrée uniquement vers le domaine économique, vers le libéralisme. Il pensait que l'Europe devait proposer une alternative culturelle et donc aussi religieuse. Avec la Constitution, on a l'impression que cette idée c'est pas une impression, c'est une réalité. Le refus d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe, c'est un échec pour lui ?
Oui. Je pense qu'il a vécu comme tel. Il a vécu comme tel, à savoir que le refus d'inscrire le terme racine chrétienne, je crois que le terme de racine religieuse est inscrit dans la Constitution, si tu m'as vu, la future Constitution. Oui, parce que je peux vous dire franchement, moi, en septembre dernier, donc en septembre 2004, alors qu'il n'était pas dans l'état où finalement il a disparu, il a dit j'étais là. Je veux dire qu'il n'a pas dit à moi, il a dit j'étais là. Mmh. Il n'a pas compris. Mmh. Il n'a pas compris parce que là, je veux dire que on peut dire que Jean-Paul II était déjà dépassé. Et puis, je dis très franchement, l'attitude de la France l'a profondément déçu.
Quand vous dites dépassé, c'est dépassé par son époque ou par les événements ?
Non, dépassé par une époque où effectivement les racines chrétiennes sont considérées comme étant une sorte de tatouage que l'on mettrait sur la Constitution, alors qu'il y a aussi effectivement d'autres religions. Ils demandaient la racine profonde par rapport aux racines secondaires. Les églises protestantes, qui sont quand même liées à la réforme, à la contre-réforme, l'islam. Qui existe, le judaïsme qui à ses yeux d'ailleurs était très 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 prioritaire. Mmh. Bon, ceci dit, il a échoué. Je crois que c'était une très grande souffrance pour lui, parce que et le fait que le président de la République se soit mis de ce côté-là de façon tout à fait affirmative et qu'en même temps on demandait l'entrée de la Turquie en Europe. Était pour lui un objet de stupéfaction. Mais disons qu'il n'y a pas pu en discuter beaucoup avec les états-majors politiques des différents pays d'Europe qui ont refusé, parce qu'il est déjà âgé et que ses bureaux n'ont pas assez de latitude pour, je parlais de Dicaster, pour en discuter. Mais ça a été pour lui, je pense, une des croix à la fin de sa vie qu'il n'a pas défendu, il n'a pas pu obtenir qu'on mette dans la Constitution. Mmh. Les racines chrétiennes de l'Europe. Chrétienne ne voulant pas dire catholique, nous sommes d'accord.
Oui, oui. On a l'impression que le Vatican, au fond, tout au long du XXe siècle, agit a posteriori et voit les événements, puis ensuite les juges, plutôt que de créer l'événement, un peu comme il l'est créé avant le traité de Westphalie de 1648, qu'il a beaucoup critiqué, ou bien même à l'époque du Moyen-Âge.
Je suis absolument d'accord avec vous. C'est d'ailleurs une très bonne remarque, parce que le Vatican a le temps pour lui. Enfin, le Saint-Siège a le temps pour lui. Constitution civile du clergé, 1790, pas de réaction. Serment du clergé vis-à-vis de la législative, pas de réaction, finalement schisme. 1801, concordat, certes. Articles organiques, 1802, pas de réaction. Police des cultes, je veux dire. Etc. On pourrait multiplier des exemples.
Oui, oui.
C'est d'ailleurs un des problèmes du Saint-Siège. C'est là qu'on voit que ce n'est pas un véritable acteur de la relation internationale. Parce qu'il réagit toujours avec deux tours de détour.
Ouais.
En revanche, le Saint-Siège a parfaitement compris ce qui se passait au moment de la conférence d'Helsinki, quand il a compris de la corbeille culturelle. Qui était au fond la corbeille, je dirais, la plus vide au départ, par rapport à ce qu'était le face-à-face Est-Ouest entre l'URSS à l'époque et les États-Unis, donc je crois que 73-74, je ne me trompe pas, il y avait là quelque chose à donner. Donc le Saint-Siège est entré dans la relation internationale par les accords d'Helsinki, puis ensuite les conférences de Vienne, etc.
Alors nous arrivons, Philippe Levien, au terme de cette émission. Il y a les États, il y a les nations, il y a le Saint-Siège, mais il y a aussi l'opinion publique. Donc nous savons, bien évidemment, avec Jean-Paul II, le rôle des JMJ, le rôle de l'élan populaire extraordinaire, tel qu'on a pu l'observer encore à nouveau au moment des obsèques. Et ce qu'il y a d'intéressant dans votre introduction au colloque Nations et Saint-Siège au XXe siècle, c'est que le début de cette opinion publique qui se lève pour le pape, c'est en 1943 avec Pie XII et avec cette fameuse visite lors des bombardements à Rome.
Oui, alors ça, c'est une chose qui est assez ignorée de l'opinion publique. C'est que Pie XII, en 1943, quand tout est vacant, Mussolini est parti sur la ligne de garde, il y a plus Victor Emmanuel III qui est parti dans les Abruzzes, Rome est bombardée. C'est avant que le pape. C'est le pape qui déclare Rome ville ouverte, hein, ce qui veut dire qu'il n'est pas question d'y toucher, puisque tout le monde peut y rentrer. Alors ça, c'est gros. Et il se rend à un bombardement périphérique, qui a d'ailleurs été l'objet d'un film avec Anna Magnani, et en voiture découverte. Et à ce moment-là, en 1943, Pie XII, qui a depuis été vilipendé, jeté aux orties, etc., est véritablement le chef. Enfin, le chef, l'autorité suprême de l'Italie. Mais à Rome. Bon. Mais c'est vrai que les Romains sont attachés aussi au pape, donc évêque de Rome, vicaire du Christ, évêque de Rome, comme dit la titulature, parce que Pie XII a fait ce geste, réédité d'ailleurs de façon tout à fait extraordinaire par Paul VI au moment de l'enlèvement d'Aldo Moro.
Au moment de ?
L'enlèvement d'Aldo Moro.
Oui.
Parce que au moment où Aldo Moro, donc enlevé, ensuite retrouvé, etc., aux obsèques, qui va, tous les hommes politiques, ils vont en hélicoptère à Saint-Jean-de-Latran. Qui traverse Rome en mai 1978 en voiture découverte, c'est Paul VI.
Le charisme et le symbole est devenu incontournable chez le pape du XXe siècle.
Absolument. Mmh. Et le fait d'être polyglotte aussi. Mmh. Mais il y a cette image, ces images extraordinaires, que ces papes qui, si je veux dire... n'ont peur de rien. Et d'ailleurs, je comprends très bien que Jean-Paul II ait dit, quand il est apparu au balcon de la loge de bénédiction le 16 octobre 78, n'ayez pas peur, parce qu'en principe, le pape lui-même n'a pas peur. Et c'est ça. Alors, vous me direz, on peut justifier ça par multiples raisons, mais tous les papes, y compris d'ailleurs du 19e siècle, du 20e siècle et du 19e siècle, ont toujours été des hommes très courageux. Et un des critères du prochain pape, ce sera le courage. D'être capable de manifester qu'en quelque occasion que ce soit, il descend, il est présent et il ne s'évade pas.
Eh bien, Philippe Le Vélin, c'est sur ces mots de courage que nous allons nous quitter. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du dictionnaire historique de la papauté, paru aux éditions Fayard, et que vous avez dirigé avec Hélène Carrère-Dancos le colloque Nation et Saint-Siège au XXe siècle avec la fondation Singer-Polignac. Les actes du colloque sont disponibles aux éditions Fayard. Philippe Le Vélin, merci.
Bonsoir.
Et à très bientôt.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.